vous êtes, on peut dire, bien placé, entre guillemets, là, c'est pour vraiment savoir de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est la vie dans une famille où il y a un enfant atteint de ce problème-là?
La vie, c'est difficile à résumer en quelques mots, là. Oui. Les problèmes commencent déjà quand l'enfant, on commence à avoir des pertes d'acquis. La majorité des parents vont vous dire que leur enfant est normal jusqu'à 18 mois. Maintenant, on entend parler de 12 mois. On a différents... différents âges maintenant, parce que j'ai des jeunes qui ont eu diagnostic après l'âge de 9 ans qui étaient normaux. Donc, c'est difficile parce qu'on est sollicité de toutes parts. Nos enfants ont des troubles de comportement, des pertes d'acquis, pertes de langage. Et les démarches pour obtenir un diagnostic sont complexes. Il y a des listes d'attente maintenant. C'est souvent un an d'attente pour quelques minutes dans un bureau d'observation de comportement. Et bon, on est dans une espèce d'enfer. Moi, quand je fais des revendications au niveau du ministère, je leur dis, c'est comme s'il y a un ballon qui gonfle, puis va éclater à un moment donné. Il y a beaucoup d'enfants. Une augmentation assez dramatique. On le voit par les commissions scolaires, on le voit par les listes d'attente partout, on le voit. Avant ça, l'association, on était les seuls à militer pour l'autisme. Maintenant, partout où je vais, moi, je parle plus beaucoup. C'est tous les gens sont concernés maintenant.
On peut dire que c'est un problème de santé publique.
Oui, exactement.
De premier plan.
Exactement.
D'accord. Et vous avez mentionné, puis je voudrais insister sur cette question-là, que dans bien des cas, les enfants étaient normaux au départ.
Oui.
Donc,
oui.
Que vous parliez de perte d'acquis.
Exact.
Ce qui veut dire qu'il y a eu des facteurs identifiables en cause, puisque...
C'est très sournois. Hein. C'est sûr que quand on pose des questions, la majorité des parents vont cibler que ça prend un vaccin. Puis, bon, c'est ceux comme moi qui décident un jour de se battre et d'essayer de comprendre qu'est-ce que peut arriver. Ben, j'ai 5 enfants. Un est autiste. Qu'est-ce que peut arriver à lui par rapport aux autres? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça a été de longues recherches, parce que notre société est portée à dire, fais ton deuil, accepte ça, c'est comme ça, c'est neurologique, de titre. Mais moi, je voulais comprendre, parce que j'avais identifié ça comme une gastro-entérite. Mon fils avait comme eu des vomissements, puis après ça, a perdu tous ses acquis. Et je me disais, il y a un lien avec la gastro-entérite. C'est pas nécessairement la gastro-entérite. Après ça, j'ai comme gardé dans son carnet de vaccination, ça suivait un vaccin. Bon, je restais dans un milieu où il y avait, je me suis fait réparer 6 dents, 3 avant d'accoucher, 3 après pendant que j'allaitais. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais c'est ça, je résume ça en quelques minutes, mais ça m'a pris des années avant de saisir qu'il y avait des facteurs environnementaux. Et on a commencé par cibler les vaccins, qui, oui, peuvent avoir un rôle déclencheur, selon moi, mais que c'est beaucoup plus vaste que ça. Quand on parle d'environnemental, c'est qu'il peut avoir l'exposition aux pesticides, il peut avoir plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ça qui rend ça paniquant et complexe, parce que quand on en parle au niveau du ministère, au niveau de la santé publique, on refuse même la santé publique de répertorier le nombre d'enfants, puis on refuse beaucoup de... même de tenir compte de l'augmentation actuellement.
D'accord. Et vous êtes entré forcément en contact avec d'autres parents
oui.
qui ont vécu des expériences oui. semblables à la vôtre.
Moi, ça fait 20 ans que je suis au niveau de l'association, là.
Et qui ont pu constater comme ça ces pertes d'acquis. Ce sont des pertes qui se font sur une période, disons, de quelques semaines, quelques
ça
mois.
Dépend,
c'est variable.
C'est variable. Mais les parents vont vous dire d'emblée qu'ils ont l'impression qu'à un moment donné, leurs enfants sont en train de perdre leur enfant. C'est très sournois parce que moi, c'était dramatique, là, perte du langage. Bon, c'était vite. D'autres
c'est
parents.
Quoi? Vous voulez dire rapidement?
Rapidement, en quelques jours. D'autres parents vont vous parler que leur enfant a commencé à faire des otites chroniques, à avoir des infections, puis après ça, il y a eu des pertes d'acquis, leur enfant qui était plus, ils sont moins présents, leur regard est plus le même, le niveau d'activité, il y a des enfants qui dorment plus comparativement aux miens qui dormaient plus jamais. L'histoire demeure toujours autour de la communication, de la socialisation, mais c'est très sournois. Et c'est là que c'est difficile parce qu'on cible beaucoup les parents. Hein. Moi, qu'est-ce qu'il a bien pu y faire pour qu'ils arrêtent de parler, hein, parce que nos enfants sont tellement tannants, sont tellement beaux que les gens pensent que les parents sont responsables. Puis on a beaucoup de difficultés, encore même en 2003, avec ça. Au niveau de... On pense que les mères, en particulier, sont responsables. Ils ont travaillé, hein, c'est des choses bien complexes.
D'accord. Je voudrais qu'on voit peut-être un autre... volet. Mm-hmm. On va aborder bien sûr la question de solution bientôt,
oui.
Mais avant de parler de question de solution, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est un problème, on l'a dit, de santé publique.
Oui. On organise des congrès médicaux, hein, parce qu'on a mis beaucoup d'emphase dans les dernières années sur les programmes éducatifs, parce que c'est important. Mais actuellement, l'association, on continue avec nos programmes éducatifs, mais on organise des congrès médicaux pour essayer de de jeter une nouvelle vision sur, écoutez, il y a une augmentation, nos enfants sont atteints au niveau de leur fonctionnement pour la vie. Et on ne dit pas qu'ils sont atteints tout le temps parce qu'on sait par les programmes éducatifs, par les bons traitements qu'ils peuvent récupérer, puis on en a des exemples ici même au Québec, mais il faut logiquement se poser la question pourquoi et essayer d'explorer la prévention, la recherche de causes, les traitements et la prévention. On ne peut pas continuer comme ça. C'est une responsabilité de société. On est en train de perdre une génération d'enfants et on continue. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable puis de dire, ben on ne le fait pas, on écoute tout le monde. Il faut vraiment... Puis ça appartient à chacun, hein. Ça appartient à chacun de nous de parler, de poser des questions, puis de faire des revendications, puis d'être informé, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à mieux comprendre, puis à ne plus accepter qu'on handicape nos enfants au nom de je sais pas quoi, au niveau d'une société. C'est une responsabilité de société, puis en étant informé puis en posant des questions, on va arriver à la prévention un jour.
On a évoqué tout à l'heure la question de solution. Et tout à l'heure, on parlera aussi avec Maria Costa de l'autre aspect. Est-ce qu'on peut se fier sur les diagnostics, les façons d'identifier? Est-ce que, en termes, disons, de solution, à l'association, par exemple, les parents, vous échangez entre vous, qu'est-ce que vous avez pu constater, considérer comme plus efficace, comme mesure, on peut dire, pour atténuer les problèmes?
C'est sûr que quand les parents arrivent là, qui viennent d'avoir un diagnostic, ils ont beaucoup, sont très émotifs, puis ils ont beaucoup d'attentes. On a ailleurs et ici expérimenté des méthodes qui font que les enfants récupèrent, mais c'est pas accessible. C'est une question d'argent, hein. Au niveau du ministère, on a donné un petit peu d'argent. On a donné 18 millions récemment, après de longues années là, de bataille. Mais là, 18 millions, étant donné le nombre d'enfants, est déjà il en manque encore. Et on a un manque d'expertise, on a un manque de médecins. Donc, les parents qui peuvent et qui souhaitent le faire, il y a des gens en privé. Il y en a qui sont allés aux États-Unis pour faire évaluer leur enfant par des médecins au niveau de leur intoxication, d'avoir des traitements. Bon, il y en a d'autres ici qui font faire avec des naturopathes. Il y en a d'autres parents qui font venir des choses des États-Unis. Il y a une façon de s'organiser. Mais et puis, au niveau éducatif, il faut vraiment faire un programme très ciblé pour l'enfant. Ça veut dire qu'on faut voir quelqu'un qui va évaluer c'est quoi au niveau de ses lacunes, au niveau psychologique, et quel programme qu'on peut adapter. C'est sûr que nous autres, on milite pour ce qu'on appelle le ABA, qui est un programme éducatif basé sur comment l'enfant peut apprendre d'une façon positive, et c'est très, très, très intelligent comme façon de procéder, sauf qu'on manque d'experts ici.
Ce programme-là, il
non.
Est...
Et les gens qui sont... Il y a quelques psychologues qui sont allés quelques mois aux États-Unis, mais ils sont tellement en demande qu'il y a des listes d'attente même en privé. Donc, les parents, il faut qu'on se regroupe, s'organise, et pour soit les États-Unis ou soit faire venir quelqu'un des États-Unis ici pour faire un programme pour leur enfant. Et il y a des bons résultats, d'excellents résultats. Il s'agit de vendre ça à nos ministères, donc il faut continuer à faire ça. D'accord.
Mais nous donnerons tout à l'heure les coordonnées de toute façon, oui, pour qu'on puisse entrer en contact et savoir comment on peut accéder à des solutions.
Thank you.
nous sommes toujours en compagnie de Maria Acosta, de Carmen Lahaye, du docteur Pierre Larose. Docteur Larose, vous, en tant que dentiste, en tant que secrétaire exécutif de l'Association de médecine dentaire holistique du Québec, vous avez une expertise dans le domaine des, on peut dire, de la biocompatibilité, ou de ce qui est l'inverse, c'est-à-dire l'effet de certains matériaux utilisés en dentisterie. Et vous d'ailleurs préparez, je pense, une conférence que vous présenterez prochainement aux États-Unis, en Louisiane plus précisément.
Oui, effectivement, au mois de septembre, c'est l'Académie internationale de médecine buccale et toxicologie qui se réunit. Ça, c'est un rassemblement d'environ 400 médecins, dentistes et chercheurs PhD qui ont à cœur la santé générale des gens par le biais de la bouche. J'ai fait une revue de la littérature scientifique d'environ 70 articles, en fait, publiés dans la recherche médicale sur les effets du mercure sur le fœtus et l'enfant. La conclusion que j'apporterai devant les membres de l'association réunie sont que l'argument, en fait, que les niveaux d'exposition au mercure des amalgames sont trop bas pour causer des dommages est faux. Alors, pendant des décennies, en fait, ça fait depuis 160 ans qu'on utilise l'amalgame dentaire pour restaurer les dents cariées des gens de façon apparemment sécuritaire. Alors, c'est un peu comme l'essence au plomb, on a utilisé ça longtemps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, on l'a éliminé, les tuiles d'amiante, etc. Mais les amalgames dentaires, ce n'est que depuis 1980, en fait, qu'on a démontré que le mercure, qui compose 50% de la restauration grise, qu'on appelle les amalgames d'argent, en fait, c'est du mercure. Et le mercure, c'est un poison, c'est le deuxième élément le plus toxique sur Terre. Le premier étant le plutonium, la radioactivité. Alors, il y a juste le plutonium qui est plus toxique que ça. Alors, imaginez, dans le moment, les dentistes à Montréal, à Toronto et à Vancouver doivent récupérer tous leurs débris d'amalgame parce que c'est tellement toxique, ça pollue l'environnement. On refuse à la ville de traiter ça. Par contre, on le place toujours dans la bouche des gens. Alors, et apparemment de façon sécuritaire. Alors, il y a depuis 1980, donc, on réalise que le mercure s'échappe de ces restaurations-là. Lorsqu'on brosse nos dents, lorsqu'on mange des aliments plus chauds, lorsqu'on fume, lorsqu'on consomme des aliments acides, ou lorsqu'on va chez notre dentiste et que le dentiste fraise sans protection les amalgames, ben, on est exposé à des grandes quantités de vapeurs de mercure, et les vapeurs de mercure sont excessivement toxiques, sont absorbées en fait de 80 à 100% par les poumons. Dans les poumons, ça passe dans le sang, et là, ça va à tous les tissus dans le corps. On parle, juste pour vous donner une idée, je ne sais pas combien de cellules dans le corps humain, mais il y a, pour vous imaginer, 3 à la puissance 16. Donc, 3 avec 16 zéros, ça, c'est la quantité d'atomes de mercure qu'une personne qui a environ 8 amalgames en bouche, tout simplement, respire à tous les jours.
Parce que c'est 24 heures sur 24, voilà. C'est sans arrêt.
Voilà. Alors, c'est une exposition qui est quand même très, très grande. Alors, Dieu merci, le corps a la capacité d'éliminer une bonne partie de ça. Et justement, aujourd'hui, on regarde l'étude que Maria rapporte où il y a certaines personnes qui ne sont pas capables d'éliminer le mercure, semble-t-il.
On va y revenir.
Voilà. Oui. Alors, c'est une des causes possibles qu'on regarde en regard justement de l'autisme. Alors, l'exposition prénatale, en fait, au mercure, de quelque source que ce soit, on réalise aujourd'hui, cause des dommages cérébraux à des concentrations excessivement faibles. Alors, on sait que le mercure, par exemple, des amalgames dentaires, traverse la membrane placentaire et, en fait, se concentre, comme la plupart des toxines, dans le fœtus. En fait, il y a 30% plus de mercure dans le fœtus que dans le sang de la maman. Alors, souvent, les mamans enceintes se sentent en bonne forme. On les voit qui reprennent l'énergie et, en grande partie,
elles
c'est grâce à...
Elles se sont libérées d'une partie du mercure. Voilà. Alors, c'est le bébé qui, lui, l'a absorbé.
Qui, lui, l'a absorbé, effectivement. Et, naturellement, lorsqu'il va naître, ben il va naître avec ce fardeau-là dont il doit éventuellement se débarrasser quand son système immunitaire va être assez puissant pour le faire, alors que lorsqu'il est en développement, il n'y est pas assez puissant. Alors, c'est la situation dans le moment. On sait au Québec, en 1996, il y a eu des émissions découvertes à Radio-Canada qui ont exposé le problème de façon très scientifique. Malheureusement, les autres médias n'ont pas repris le sujet. Mais dernièrement, l'Association de médecine dentaire holistique du Québec tente en fait de faire accepter à la Régie d'assurance maladie du Québec de couvrir autre chose que les plombages au mercure. Alors, la Régie d'assurance maladie du Québec et l'Association des chirurgiens dentistes décident ensemble de quelles restaurations seront remboursée pour les bénéficiaires de l'aide sociale et pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, on sait que
c'est un paradoxe, là. Il y a
voilà,
une sorte
d'incohérence. Voilà, c'est ça. En sens que Santé Canada, en 96, a recommandé spécifiquement pour les enfants de moins de 10 ans dans les sols et dents de l'air, parce qu'il est de ne pas utiliser l'amalgame, d'utiliser d'autres matériaux plus biocompatibles. Et puis là, au Québec, ben, les gens sont obligés d'accepter qu'on leur place des amalgames au mercure ou de payer.
On peut dire, pour les familles qui sont moins à l'aise financièrement, c'est l'amalgame dentaire qui sera d'office installé.
C'est soit ça, ou faire extraire la dent, ou aller à une alternative qui n'est vraiment pas santé, effectivement. C'est malheureux.
Docteur Larose, en nous écoutant, peut-être qu'il y a des gens qui voudront se précipiter chez leur dentiste en se disant, si j'ai du mercure en bouche, moi j'ai des surfaces d'amalgame dentaire, des plombages, je veux faire enlever ça au plus vite, après ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est une bonne idée que de se précipiter chez son dentiste?
Écoutez, je pense que c'est une des pires choses qu'on peut faire. Dépendant de la technique qui est utilisée pour retirer les amalgames dentaires, la personne, effectivement, peut être protégée. Mais dans la majorité des cas, et voyez-vous, il y a encore 72% des dentistes en Amérique du Nord, et certainement plus au Québec à cause de ce qu'on vient d'expliquer, qui utilisent encore l'amalgame dentaire. Donc, ces gens-là ne sont convaincus qu'il n'y a pas de problème à utiliser l'amalgame. Ils ont été à l'université, on leur a dit que, bon, le mercure est lié chimiquement et qu'il n'y a pas de danger. Maintenant, les études médicales qu'on a consulté démontre le contraire. Alors, les gens qui vont se précipiter chez leur dentiste et se faire enlever et retirer les amalgames de façon non protégée, c'est-à-dire si le dentiste en question n'a pas suivi une formation ou n'emploie pas les techniques, le protocole de protection totale, c'est-à-dire qui est recommandé par Santé Canada et qui implique plusieurs barrières, entre autres le rinçage avec du charbon activé auparavant, une source alternative d'air propre lorsqu'on enlève les amalgames pour éviter d'inhaler les vapeurs toxiques lorsque le dentiste fraise l'amalgame, l'usage de la digue de caoutchouc, une suction très puissante, l'assistante qui envoie constamment de l'eau tout le long de la procédure. Alors, ce sont toutes des protections qui sont excessivement importantes et il est important que les gens ne se précipitent pas chez leur dentiste pour faire enlever ça de façon non sécuritaire. Si les gens désirent connaître les dentistes qui ont suivi cette formation-là, ils peuvent communiquer avec l'Association de médecine dentaire holistique du Québec. Le numéro de téléphone est dans le 514-333-4020, 514-333-4020, ou encore visiter le site web de l'Association de médecine dentaire holistique du Québec. Alors, c'est www.amdhq.qc.ca. amdhq.qc.ca et on retrouve à ce moment-là la liste des dentistes qui peuvent faire le travail de façon sécuritaire, mais qui ont suivi la formation pour le faire et guider les gens vers une meilleure santé.
Vous êtes trop peu nombreux pour l'instant, ayant cette formation, connaissant ce protocole de dépôt sécuritaire et d'utilisation aussi de matériaux biocompatibles, parce que c'est pas tout de faire le dépôt d'amalgame, il y a aussi par quoi va-t-on remplacer. Est-ce qu'il n'y a pas des formations dispensées ou...
Effectivement, s'il y a des dentistes...
Disponibles pour les dentistes.
Oui, effectivement. Céline, les dentistes qui nous écoutent peuvent effectivement communiquer avec l'association aux deux adresses préalablement données s'ils désirent suivre cette formation, justement, qui est recommandée par Santé Canada. C'est une formation d'une journée où on explique en détail les dangers de l'amalgame, on explique les protocoles à utiliser, comment protéger les patients, comment se protéger, parce que les dentistes et leur personnel est exposé également, également au danger du mercure lorsqu'ils travaillent avec l'amalgame, surtout s'ils en enlèvent en grande quantité. Alors, c'est important qu'ils puissent se protéger eux-mêmes parce qu'il y a des effets nocifs sur la santé des dentistes à long terme également et du personnel. On dit que le mercure ne tue pas, ça fait juste rendre la vie très difficile.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il abrège la vie ou qui le rend la vie beaucoup plus compliquée ou dans certains cas même dramatique?
Écoutez, c'est, je pense que plusieurs toxines aujourd'hui dans notre environnement contribuent à ce que vous venez de décrire. On a des cas de toutes sortes de problèmes. Je relate ici les symptômes qui sont répertoriés dans un petit dépliant publié par l'association qu'on peut obtenir encore une fois aux deux numéros donnés plus tôt. Les gens qui souffrent de périodes de dépression, d'irritabilité, pardon, sans raison, de pétillement ou d'engourdissement dans les extrémités, le besoin urgent d'uriner la nuit en particulier, de fatigue. Et la fatigue, c'est donc un problème aujourd'hui que dont plusieurs personnes se plaignent.
Et, en augmentation.
Voilà, et le mercure, de la façon qu'il agit, le premier site qu'il bloque, c'est le centre respiratoire à la base du cerveau. Donc, il donne l'impression que le corps a assez d'oxygène et le corps va moins respirer à ce moment-là et la personne va toujours se sentir fatigué. Alors, il y a plein d'autres symptômes, les mains et les pieds froids, les pertes de mémoire, les rages soudaines, la constipation habituelle, les tics aux muscles du visage, les difficultés à prendre des décisions, un goût métallique. Alors ça, c'est un signe indéniable d'une intoxication par les amalgames dentaires, des démangeaisons, des irritations de la peau. Il y a toutes sortes de symptômes que les patients nous rapportent disparaître suivant le remplacement sécuritaire, encore une fois, des amalgames au mercure. Alors, pour ce qui est des enfants, on adresse une demande particulière aux mamans, aux jeunes mamans. D'ailleurs, il y a un dépliant qui est publié par l'association qui s'appelle Future Maman. Considérez faire remplacer vos amalgames avant de devenir enceinte. C'est tellement un cadeau à faire à son enfant que de ne pas l'exposer, sachant que le mercure va s'accumuler justement dans son fœtus. Alors, si les mamans sont à notre écoute, ou les futures mamans, évitez tout travail avec l'amalgame, même si ce n'est que le polissage de vos dents par l'hygiéniste. Et les hygiénistes, si vous êtes enceinte, faites attention à ça. Les vapeurs de mercure, votre bébé absorbe ça. C'est excessivement important de se protéger contre ça.
Et quand vous dites avant, c'est avant quelques jours, quelques semaines avant?
C'est pendant toute la grossesse.
Oui, mais avant, je veux dire, est-ce qu'il y a par exemple un délai, hein, le temps que le corps élimine peut-être certains résidus?
Précédant la grossesse, on recommande aux gens d'attendre au moins 3 mois après l'élimination totale des amalgames dentaires avant de devenir enceinte.
D'accord.
Pour bien être certain de protéger son enfant, effectivement.
Nous sommes en compagnie de Maria Acosta et de Carmen Lahaye, de Dr. Pierre Larose. Nous parlons d'un problème, d'une question, je devrais dire, plutôt de santé publique. Et nous allons compléter de ces informations. C'est très court, évidemment, le temps d'une émission, mais ça donne le temps de quand même susciter l'attention, de penser en termes aussi de solutions. Et je voudrais vous demander, Maria Acosta, il y a une question qui nous restait. Est-ce que, bon, cette étude dont vous parliez au début de cette entrevue chez les enfants à partir des cheveux, est-ce qu'elle est fiable, cette étude? Est-ce qu'on peut la prendre au sérieux? Est-ce que, par exemple, le fait qu'il y ait moins de mercure et que ce soit significatif, la différence entre les enfants autistes et ceux qui ont, disons, une santé, on peut dire, normale?
Ce qui arrive, c'est que l'analyse des cheveux est utilisée par certains médecins, mais surtout par des naturopathes, pour démontrer une exposition au mercure. Autrement dit, si on trouvait des mercures dans les cheveux, on se disait, mais effectivement, tu es intoxiqué au mercure, tout doit être traité. Si on ne trouvait pas, on se disait, bon, mais tout va bien, ça veut dire que tu n'as pas de mercure, c'est ton imagination, on va regarder ailleurs. Cette étude démontre qu'effectivement, certaines personnes sont incapables d'éliminer le mercure simplement parce que normalement, ce qui devrait arriver, c'est que dès qu'il y a contamination au mercure, soit par des vaccins, soit par des amalgames, soit par les poissons qu'on mange, parce que ça, c'était vu aussi, que les poissons sont très contaminés, il faut éviter les poissons, les crustacés, tout produit de la mer. Si c'est par des En tout cas, d'autres sources, Dr. Larose nous a parlé de certains pesticides, nous a parlé de certains produits, mais par exemple, les gens ne pensent pas que les savons d'eau contiennent du mercure, ne pensent pas que l'isol qu'on utilise pour nettoyer dans la maison contient du mercure, Ajax, Comet, tous ces produits-là qu'on trouve dans toutes les maisons, normalement, contiennent aussi du mercure.
Est-ce qu'on peut trouver quelque part une liste des produits courants qui contiennent du mercure?
Il existe, je les ai trouvés en anglais, différents États aux États-Unis donnent une liste de tous les produits domestiques qui contiennent du mercure. Je pourrais...
Éventuellement sur votre site de l'Association de médecine dentaire holistique, il pourrait peut-être y avoir... au moins le site que les gens peuvent aller consulter, en lien peut-être, éventuellement, ça serait bien que les gens puissent trouver la liste qui serait peut-être en anglais pour l'instant, mais qui pourrait éventuellement être traduite parce que c'est important. Je pense qu'il y a aussi des adoucisseurs de tissus qui contiendraient du mercure. Enfin, on peut trouver dans une grande variété de produits.
Exactement. Donc, c'est là qu'on pourrait faire ça pour informer le public. Puis, l'autre chose que nous donne cette étude-là, nous a démontré plusieurs choses. Numéro un, c'est qu'effectivement, les petits garçons, on a plus de difficultés que les petites filles à éliminer. Effectivement, la contamination, l'intoxication de la mère avant la gestation va être transmise à l'enfant, peu importe si que l'enfant devienne autiste ou non. Tous les enfants, on va être intoxiqués
d'une
par le mercure.
D'une façon ou d'une autre.
On va être intoxiqué par le mercure de la mère pendant ou avant la grossesse, que la mère avait avant la grossesse et pendant la gestation.
Donc, si ça n'est pas l'autisme, éventuellement, ça pourrait être un autre problème de santé, comme le docteur Larose mentionnait, l'irritabilité, des questions comme enfin, des comportements.
Mais on regarde, regardez le déficit d'attention chez les enfants. Il n'y a pas une classe qui n'a pas au moins 25% des enfants qui ont un déficit d'attention, aux troubles de comportement, les troubles d'apprentissage.
En augmentation, là aussi.
Tout est en augmentation, les allergies,
la guerre.
Et c'est pas uniquement le mercure. Ce que le mercure fait, c'est que le mercure va provoquer un tel déséquilibre biochimique dans le corps que toutes les autres toxines, que ce soit des métaux comme l'aluminium, les plombs qu'on respire dans l'air, ou que ce soit des pesticides, etc., tout ça, ça va être à travailler
amplifié,
en synergie puis amplifié.
Effet d'interaction.
Ce ne veut pas 1 plus 1 égale à 2, d'accord, mais c'est 1 plus 1 égale à 3000.
D'accord. Carmen Lahaye, oui. Vous, à l'association, donc vous avez dit on peut s'adresser à l'association, nous allons donner les coordonnées, si vous le voulez bien,
oui.
Le numéro de téléphone.
À Montréal, dans le 514-524-6114. Je répète, 524-6114.
Oui. Et vous préparez un congrès qui aura lieu au mois de
oui.
novembre.
Oui. À chaque année, on organise un congrès médical où, strictement, on ne parle que de la recherche de cause, on parle des traitements qui sont en cours, on parle aussi des recherches qui sont en cours. C'est sur deux jours, c'est le 21 et le 21 et le 22 novembre prochain.
Et ce sera à Montréal.
Oui.
Et on aura toutes les informations si on vous appelle
à l'association
dont vous avez donné le numéro de téléphone.
Oui.
Et est-ce qu'on peut dire, en général, il y a des précautions que les gens peuvent prendre ou peut-être certains choix que les gens peuvent faire? Je sais que à l'association, vous avez constaté, par exemple, j'ai déjà interviewé la mère d'un enfant autiste qui a constaté, par exemple, qu'en éliminant le sucre,
oui.
le gluten et la
caséine, on évite des produits, mais c'est plus que ça. On est très, très impliqués. On organise beaucoup de groupes de parents. Mais la première chose qu'on demande aux parents, c'est d'éliminer le lait, d'éliminer le blé. Et on va dans le soya aussi maintenant, qui a beaucoup d'effets chez nos enfants. Parce qu'on a notre
vous
blé,
parlez d'effets bénéfiques.
Non, le
non.
soya non plus.
Non plus.
Ils sont intolérants au soya, la majorité
donc.
Au soya. On parle aussi d'attendre pour les vaccins. On n'est pas anti-vaccin parce que, bon, c'est sûr qu'on pense que les vaccins ont un rôle à jouer. Mm. Donc, les recommandations, ce qu'on fait aux parents, c'est d'essayer de mettre la pédale douce des vaccins, d'attendre qu'il y ait plus de recherches et de changer l'alimentation et d'être très à l'écoute là, de ce qui se fait au niveau, d'avoir un programme éducatif. C'est ça, mais il faut être ouvert on observe, chaque enfant est différent. On ne peut pas dire qu'il y a une ligne de conduite, là, mais à la base. Oui.
Et pour les gens qui s'inquiéteraient, qui diraient, mon pauvre petit enfant qui n'a pas de lait, risque de manquer de calcium, etc., ou bien qui ne mange pas de blé, c'est terrible, les sandwichs, enfin, on ne mange que ça tous les jours à l'école, vous avez des solutions, vous
oui, imaginez. Oui, on peut manger autre chose, là, c'est ça, la viande, les légumes, puis les fruits. Tu sais, moi, je dis toujours que ma mère, qui restait sur une ferme qui était pauvre en 1923, mangeait des fruits et des légumes de saison, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de verges en arrière, puis elle ne buvait pas de lait. Donc, ces gens-là ont tous survécu. C'est ces gens-là qu'on voit vivre jusqu'à 90 ans puis 100 ans. Donc, il s'est passé quelque chose.
Ils avaient tous un jardin potager, puis ils gardaient des légumes en réserve dans des caveaux l'hiver. Enfin, c'est...
On parle beaucoup, actuellement, dans nos congrès, on parle beaucoup d'utilisation même des autres farines parce qu'on pense que ça peut bloquer la digestion des sucres. Donc, on nous demande de faire attention au niveau des farines.
Au niveau des farines, vous avez bien raison. Docteur Narose?
Oui.
Peut-être une...
Un petit message de prévention, peut-être, en terminant.
Oui.
Écoutez, l'Halloween s'en vient. On sait que les enfants adorent les bonbons, les adultes aussi. C'est peut-être une occasion d'éduquer nos enfants quant à la bonne alimentation. Si nos enfants veulent manger tout ce qu'ils veulent le soir de l'Halloween, se faire une petite réserve pour le lendemain, manger tout ce qu'ils veulent le lendemain, et puis par la suite, le 1er novembre au soir, ben, on jette tout ça au vidange et on montre aux enfants, regarde, c'est des cochonneries. C'est agréable à manger, ça goûte bon, mais c'est pas bon pour nous. Alors, si on n'a pas de sucre, on aura certainement moins de caries. Et si on n'a pas de caries, ben, on n'aura pas nécessairement besoin de plombage non plus et pas de controverse à ce sujet-là.
Bon. Et est-ce qu'on pourrait, pendant l'année, peut-être habituer aussi les enfants, les jeunes, à consommer des vraies choses, c'est-à-dire des vrais aliments qui goûtent sucrés, qui sont très bons? Moi, je connais des jeunes là, qui sont venus ici au Québec, qui ont préparé des repas, c'était un souper conférence, c'était tout à fait délicieux, c'était très sucré, mais ça ne contenait pas de sucre raffiné du tout, absolument pas, même pas de cassonade, rien que ça. Hein. C'était très sain et très, très agréable au goût. Donc, il y a toute une question d'éducation, comme vous le dites, c'est extrêmement important.
Voilà.
Bien, écoutez, je voudrais vous dire un grand merci, Maria Acosta. Oui, très rapidement.
Mais rapidement, c'est parce que ça vient de sortir dans la presse, puis un article sur les mercures et les poissons, puis un autre article dans la revue Actualité. Et malheureusement, ces articles-là parlent comme si les poissons, c'est correct à être mangés. Et définitivement, non. Les poissons, même l'étude qui a sorti dans l'actualité, est basée sur une étude de l'EPA qui a déjà été démontrée qu'il n'était pas correct. Les poissons sont tout à fait contaminés et il faut les éviter. Autant les poissons, les crustacés, les fruits de mer et les algues.
Ça fait plaisir aux végétariens. Je vous dis là.
Mais on peut remplacer par des huiles de poissons qui ont été filtrées à froid. Et ça existe dans les marchés.
Pour c'est les gens qui de tiennent demander. À consommer un produit qui vient du poisson.
Exactement. Oui,
bon. Carmen Lahaye, merci beaucoup. Docteur Pierre Larose, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Bien, c'était donc cette entrevue que nous accordait nous trois, on peut dire spécialistes de cette question. Et je voudrais compléter l'information ici. Il y a un livre de recettes qui est très, très facile à utiliser. Ce sont des recettes qui ont été testées par Jalissa Le Tendre. Et puis je vais vous donner les coordonnées parce que il faut commencer tout de suite maintenant. C'est important de ne pas attendre la mi-octobre ou la fin d'octobre avant d'habituer les enfants, les jeunes et même les gens de tous les âges, vous savez, à fêter l'Halloween d'une façon qui pénalise la santé à ce point-là. Il y a un livre, un petit livre des recettes qui s'intitule « Les délices de l'alimentation vivante » et par Jalissa Le Tendre, donc « Les délices de l'alimentation vivante ». Je peux vous donner, pour l'instant, le site Internet et le numéro de téléphone. Donc le site est www.santéglobale.net. santéglobale.net, sans accent bien sûr, et le numéro de téléphone 514-898-8273, 898-8273. Et vous pouvez aussi trouver, je pense, peut-être ce livre à la moisson à Sainte-Thérèse, aussi à un magasin de produits naturels. Peut-être on pourra le trouver aussi. Mais plusieurs recettes, c'est pas loin d'une centaine, 80 recettes qui ont été testées par Jalissa, délicieux. Donc, autre information importante. Ah, oui. Donc, oui, il y aura un souper solaire. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Ça sera le 24 septembre. Les coordonnées pour toute information, c'est esq.qc.ca pour Énergie solaire Québec. Donc, esq.qc.ca avec le www avant. Le numéro de téléphone, 514-392-0095. 392-0095. Et puis, je vous avais parlé d'une séance de détente qui aura lieu à Longueuil à trois reprises. C'est à la base de plein air, au parc régional de Longueuil, sur la rue Adoncourt, près de Curie-Poirier. Ce sont des séances de détente qui sont animées par Michel Sureau, personne dynamique, vraiment, qui obtient des résultats intéressants. Ce sera très apprécié. Il paraît qu'il y a déjà plusieurs inscriptions. Et le numéro de téléphone est le 450-468-7617. 468-7617. Et je voudrais vous dire aussi que je remercie beaucoup Michel de m'avoir rappelé une information importante. C'est au sujet du docteur Vandana Shiva, V-A-N-D-A-N-A, Shiva, c'est S-H-I-V-A. C'est une physicienne écologiste Elle est éditrice et auteure de plusieurs ouvrages. Elle a parlé de la question de l'environnement, du biopiratage des produits de jardinage, et des manipulations génétiques. Donc c'est une personne vraiment qui a accordé des entrevues. Et hier, à PBS, elle accordait une entrevue. Et vous pouvez trouver sur le site, si vous cherchez PBS, quoi, télévision, en anglais, television, et vous pouvez cliquer sur Search et Vandana Shiva, V-A-N-D-A-N-A, et le nom de famille, S-H-I-V-A. Vous trouverez l'entrevue qu'elle a accordée récemment. Attendez, j'ai deux transcriptions parce qu'il y a plusieurs entrevues qu'elle a accordées. Et moi, j'ai celle-ci qui a été accordée à Bill Moyers. Donc, elle parle aussi de plusieurs entreprises comme Monsanto, comme la compagnie McDonald's et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, j'espère qu'on pourra trouver des informations en français sur ce sujet-là. Bien, nous allons passer à la pause. Nous vous revenons juste après.
Radio Ville-Marie, le soleil de votre été.
91,3 FM Montréal, 100,3 FM Sherbrooke. Le musée Pointe-à-Calais.